Nuage d'Hélène. Art. Création. Culture. Promenade. Rencontre. Entretien.
C'est l'émission Nuage d'Hélène sur Jet FM consacrée au podcast réalisé par la FERAROC, la Fédération des radios associatives qui s'intéressent à la musique d'une manière large, fédération nationale dont Jet FM fait partie. La FERAROC donc propose, en complément d'un très beau livre que publie la FAMDT, la Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles, un livre baptisé « La création dans les musiques traditionnelles en France, l'écho d'un monde musical en effervescence », copublié donc aux éditions Mélanie Sétain par la FAMDT, le CPMD et le Nouveau Pavillon. À travers une série de témoignages, des entretiens croisés en binôme généralement, eh bien, il y a quelques podcasts qui complètent tout cela et qui vous permettent d'entendre les propos de certaines et certains des acteurs et actrices questionnés dans ce très beau et gros livre qui vient d'être publié pour un prix de 20 euros seulement.
Ébullition.
Les musiques traditionnelles en mouvement.
Une série de correspondances pour saisir les artistes des musiques traditionnelles au travail.
Réalisé par les radios de la FERAROC pour la FAMDT.
Épisode 3. Machine et instrument. Un duel perpétuel. Louis-Jacques et François Robin sont tous les deux musiciens dans différentes formations. Le premier, dans Super Parquet, et le second dans, entre autres, Trafic Sonore et Le Grand Barouf. Ces groupes ont pour point commun une forme de cohabitation entre les musiques traditionnelles et les musiques électroniques. Un dialogue musical entre machines et instruments. Mais au départ, ce qui lie ces deux hommes, c'est la pratique de leur instrument. Louis joue de la cabrette et François de la veuse, deux types de cornemuse.
Cornemuse, c'est les instruments à poche. Donc, dès qu'on voit un instrument avec une poche, c'est une cornemuse, et puis c'est une vieille famille d'instruments qui remonte au moins à l'Antiquité, qui vient plutôt du bassin méditerranéen, et puis qui s'est développé ensuite dans toute l'Europe, l'Afrique du Nord, jusqu'au Moyen-Orient. Il y a au moins une soixantaine de cornemuses différentes dans tout ce monde-là. Et quand je dis différente, c'est vraiment différente, parce que moi je joue de la veuse, mais s'il s'agit de passer sur une autre cornemuse, c'est pas simple, parce que c'est pas le même doigté, c'est le même fonctionnement, même principe de fonctionnement, c'est-à-dire la recherche du son continu, de hautbois qui sont branchés sur une autre qui permet le son en continu, donc aux musiciens de respirer sans que le son s'arrête. Mais effectivement, c'est des instruments déjà à dynamique constante. Donc moi, ma veuse, ça c'est marrant, parce que c'est vraiment des choses qu'on me renvoie tout le temps. Dès que je travaille avec des nouvelles personnes, là en ce moment je travaille beaucoup dans le milieu du théâtre, de la danse contemporaine. Donc des gens qui sont pas forcément habitués à ces instruments, ils me disent « Mais tu peux pas jouer moins fort, tu peux pas faire... » Et je dis, non, c'est... Ça, c'est vraiment des contraintes terribles.
Ah, la contrainte. Ben, c'est vrai que je pense que c'est vraiment un truc que j'ai compris en faisant de la musique avec des gens qui ne pratiquent pas ces musiques. Donc, ou même, en fait, dès qu'on a un parcours instrumental, on se rend vite compte de quels sont les pour et les contre, mais les forces et les faiblesses de nos instruments. Et c'est vrai que très vite, moi, j'ai été intéressé par des musiques qui n'étaient pas des musiques traditionnelles. Moi, j'ai écouté beaucoup de punk quand j'étais plus jeune, beaucoup de rock, noise rock, et après de la musique électronique, tout ça. Et c'est vrai qu'à vouloir faire ces musiques, typiquement, avec mon copain Rémi Villeneuve de l'époque, on écoutait beaucoup ses musiques et c'est vrai que on s'imaginait que on aurait voulu être des guitares, quoi. On aurait voulu avoir des guitares, être des guitaristes. Et en fait, c'est pas ce qu'on était. Et au début, c'est frustrant. Et après, on se rend compte que en fait, toutes ces contraintes, elles sont, pour moi, quelque chose de fécond qui, effectivement, on se dit, alors je vais pas faire la même chose, mais je vais tendre vers une espèce de projet esthétique, de forme musicale, artistique, avec mon instrument. Et ça va forcément donner un truc complètement nouveau, de fait. Parce qu'en fait, faire de la musique électronique avec des cornemuses, ça fait forcément pas la même chose que faire de la musique électronique avec un synthétiseur, un séquenceur, une boîte à rythme, un laptop, voilà. Et effectivement, ce truc-là, je l'ai pris comme quelque chose de d'émancipateur et que je cherche maintenant.
Et de la pratique de la cornemuse d'une façon très conventionnelle, on va dire, des musiques à danser, j'ai pris le pli de commencer à inventer, à réinventer mon instrument, faire de la lutherie en fait, mais de la lutherie avec des outils électroniques. Mais moi, je n'avais pas du tout une pratique de musique électronique ni une formation de musicien. Donc j'ai vraiment fait ça, j'ai appris sur le tas, comme j'ai pu, en prenant des renseignements à droite, à gauche, auprès de musiciens qui avaient ou bien une démarche similaire sur leur instrument. Dans Trafic Sonore, au tout départ, il y avait Youn Le Cam aussi, qui joue du biniou et qui, lui, travaillait aussi sur... on s'est rencontrés au CFEDEM. À l'époque, et puis donc lui il travaillait comme ça avec son biniou. Donc voilà, ça a été plein d'échanges avec le monde aussi des sonorisateurs, des créateurs sonores, pas forcément des gens qui sont issus des musiques électroniques purement. Dans Trafic Sonore, c'est pareil, il y a un guitariste qui s'appelle Laurent Rousseau qui lui était plutôt à l'époque dans une démarche de fabrication d'objets sonores, d'objets manufacturés, de brocantes en fait. Il faisait sonner plein de choses, donc c'était beaucoup de bricolage en fait. Donc il y a un peu toutes ces influences-là dans mon travail, et puis moi j'ai fait évoluer mes outils, mes dispositifs et ma pratique musicale et mon geste artistique en fait avec l'électro et ma veuze au fur et à mesure des créations que j'ai pu porter.
J'ai fait de la musique avant de faire d'avoir ce rapport à l'instrumentation électronique et au style électronique, et il y a des gens qui toute leur vie jouent du répertoire ultra trad et qui s'ennuient pas et qui le font super bien. Il y a un truc dans l'enseignement et qui est en lien avec les droits culturels, mais de dire l'égale dignité de toutes les cultures, je crois que pour l'esthétique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai des goûts, j'ai des envies, je fais des choix, et il y a des choses que j'aime écouter et d'autres pas, mais moi, je vois pas de problème de légitimité à quelqu'un qui aurait envie de faire, de reproduire, la musique de Léon Perra jusqu'à sa mort, quoi. jusqu'à la mort de la personne qui reproduit la musique, quoi. Bah, moi, j'ai pas forcément envie de faire ça, mais après tout, pourquoi pas. Donc, est-ce que je me serais ennuyé, je sais pas. Il s'avère que, en tout cas, maintenant, je m'amuse bien.
De faire de la fusion, en fait. De faire de la fusion d'une musique tech, enfin, je sais pas, ou house, ou je sais pas, avec de la musique, avec mes musiques à moi, mes musiques traditionnelles. Ça, moi, c'était pas du tout mon idée, c'était ce qui m'a motivé dès le départ, c'est de me dire, bon, ben voilà, je pose mon instrument devant moi, effectivement, il a plein de limites, il a ses limitations. Qu'est-ce que je peux maintenant essayer de tirer de, tiens, du cuir, du bois, du souffle, de, est-ce que je peux pas en faire un instrument d'accompagnement, par quel biais je peux faire ça, ah d'accord, quand je branche ça ici, ça me permet de jouer avec en tapotant à tel endroit, d'accord, là ça fait des notes, mais du coup on les entend pas, faut mettre un micro, d'accord, maintenant faut l'amplifier, ah d'accord, donc je l'amplifie. En fait, c'est vraiment ce travail de recherche d'un instrument augmenté qui m'a fait passer par le biais des musiques électroniques. Donc l'idée, c'est d'amplifier des sons, des sonorités, et des transformer. Alors, des fois par le biais d'instruments analogiques, et puis d'autres fois d'outils numériques, l'ordinateur. Moi, j'ai connu quand même dès les années 2000 l'arrivée de la démocratisation, quoi, du laptop à la maison, et puis la possibilité de assez facilement d'avoir des micros, des cartes son, des ordi, des logiciels, et puis pfiou, c'est parti. on cherche, quoi.
Cette idée de, si t'as envie de faire un truc, tu le fais, tu te donnes les moyens et on va t'aider à aller vers cette chose-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est c'est pas consubstantiel des musiques traditionnelles, mais c'est très lié depuis un bout de temps par tout un tas de truchements idéologico, politico-historiques. Mais c'est un truc que moi, j'ai envie de conserver, en tout cas. Et là, je change de casquette et je prends ma casquette d'enseignement. Pour moi, c'est un truc important de dire... ça va peut-être être pourri, mais enfin, si on n'essaye pas de le faire, on ne sait pas. Place à la création. Alors, pas comme un fétiche, c'est-à-dire de dire il faut absolument tout créer, tout est nouveau, parce que ça, j'y crois pas une seconde. Mais en tout cas, il faut créer des espaces qui permettent de relier une pratique culturelle et esthétique à peut-être des rêves, des fantasmes. Et moi, c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe encore. Là, je suis en train de travailler un solo, par exemple, et de me dire, voilà, j'ai envie de faire cette musique et maintenant, je vais prendre tout ce qu'il y a dans mon placard à musique. Enfin, j'ai une pièce de musique et il y a un placard avec mes instruments, mes pédales, mes effets, machin. Et je me dis, j'essaye de faire ça et j'essaye de tendre vers ça. Et ce que j'aimerais que mes élèves fassent, c'est ça, c'est de dire... on le fait, allez, c'est parti. Aussi, au CFEDEM Rhône-Alpes, on a fait beaucoup ça. Là, on a passé le diplôme d'État. On faisait, par exemple, une semaine de musique pour produire un concert qui n'existait pas avant. Et on se dit, on le joue à la fin d'une semaine, quoi. Et si c'est pas très bien, c'est pas très grave, quoi.
Oui, il y a l'idée de se mettre un petit peu des obstacles aussi, et puis des défis, ça, c'est sûr, des nouveaux défis. Parce que dans la musique, il y a l'aspect jeu. On joue, Ben moi je donc c'est aussi s'amuser avec tous ces éléments là et c'est vrai que quand on fait des choses quand on répète des gestes de façon rébarbatif, on s'amuse moins quoi.
Mais c'est compliqué ce rapport au geste musical, parce que en fait, dans l'absolu, c'est, enfin, en dehors de la scène, c'est pas très compliqué en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui produisent de la musique sur ordinateur. Cette musique, elle est très bien, elle est diffusée, elle est écoutée, et personne se pose la question de est-ce que cette personne, elle avait des pads avec des baguettes et qu'elle bougeait. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Mais c'est vrai que dans l'espace scénique théâtralisé, Il y a un enjeu décor, effectivement. Il y a un enjeu décor qui donne à être vu, qui sont lisibles au niveau de la production du son. Et ça nous a posé question dans Super Parquet. Ça nous a pas trop posé question, en fait, mais ça posait beaucoup question aux autres gens. C'est-à-dire qu'ils nous disaient « Ouais, mais quand même, c'est pas clair. Là, vous êtes... » Au début, les deux copains sur les côtés, ils étaient assis, par exemple. Et nous, on est toujours assis avec Antoine, par exemple. Et c'est un marqueur de la musique du centre de la France. Généralement, on joue assis. Ce qui n'est pas le cas ailleurs, d'ailleurs. J'en ai déjà parlé avec des amis du Sud-Ouest, par exemple, qui disent « Bah non, on joue debout. C'est pas cool de jouer assis. » Et c'était beaucoup de « Ouais, ça fait un peu conservatoire, ça fait école de musique, ça fait audition. C'est pas très sympa à regarder et tout. » Bon, après, les enjeux professionnels de la musique font que c'est des petites concessions qu'on est prêt à lâcher. Enfin, je veux dire, moi-même allant voir un concert qui est un concert de musique actuelle et pas un obscur truc d'électroacoustique où il y a un vieux monsieur avec une barbe et des petites lunettes qui met un... Parce que par exemple, en électroacoustique, des fois, les gens, ils jouent avec une platine CD. Et donc là, la question du corps, elle n'est pas du tout importante. Mais c'est vrai que il y a un truc de... les gens, ils vont au spectacle et ils ont envie de voir des gens qui bougent. Mais en même temps, moi, je comprends parce que je pense qu'on est tous imprégnés de ce truc-là, quoi. C'est des trucs aussi bêtes que sourire sur scène ou je sais pas quoi. C'est nul, enfin, je veux dire, c'est nul. Alors qu'en fait, on devrait en avoir rien à faire. Il vaut mieux en être conscient pour... c'est toujours une question de zone, de est-ce qu'on est prêt à être un peu plus dynamique pour rendre accessible la chose, et qu'est-ce qu'on est prêt à ne pas faire.
Donc très vite, j'ai ramené l'ordinateur, même dans Trafic Sonore, parce qu'il y avait un côté quand même plus pratique. Et puis, ça, c'est devenu un outil, un instrument, en fait, avec lesquels je joue. Et donc, dans le milieu du théâtre, des fois, je me retrouve à jouer quasiment pas de veuze aujourd'hui. Et à jouer plus d'autres instruments ou même carrément que de l'ordi, quoi. Bon, souvent ça part quand même de sons d'instruments que je joue, le violon, le doudouk, la veuze, des hautbois, un peu du monde comme ça. Je me suis un petit peu j'en ai pas mal, mais je m'y suis pas mal intéressé. J'ai d'autres cornemuses aussi, cornemuses bulgares, et donc j'emmène un peu tout ça. Mais des fois, c'est juste des matières qui me servent à jouer beaucoup plus des tableaux, des univers très beaucoup plus électroniques.
Par exemple, avec Super Parquet, on travaille donc avec des outils électroniques, et donc je suis pas complètement innocent de la pratique des musiques électroniques via la lutte électronique. Mais il s'avère que si, par exemple, j'avais un laptop entre les mains, enfin un ordinateur avec Ableton, par exemple, il y a trop de possibilités pour moi. Pour le coup, si je devais me mettre à avoir une pratique intégralement machine, laptop, chaîne du son complète, ça me prendrait beaucoup de temps pour être aussi bon que des gens qui font ça depuis qu'ils sont tout petits, enfin tout petits, ou qui le font depuis très longtemps. Et ça me prendrait beaucoup de temps pour faire un truc dont je serais satisfait. Et c'est ce truc de la contrainte, c'est que ma cornemuse, elle n'est pas faite pour ça. Et il y a un truc aussi de là, je suis à peu près sûr de créer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et donc un truc qui n'existe pas, bah forcément, ça peut être très nul, mais il y a déjà un truc de base de « Ah, je n'ai jamais entendu ça », de inouï au sens premier, quoi, de « On ne l'a jamais entendu ». Et donc, c'est l'avantage, parce que pour arriver à un tel niveau de pratique de musique électronique, pour aller vers ce vers quoi j'aimerais écouter et ce que j'écoute en musique électronique, ça me demanderait beaucoup trop de travail. Enfin, et puis il y a des gens qui le font mieux que moi, donc je me dis « Autant faire un truc qui n'existe pas déjà », ça a peut-être une chance d'être bien. Après, c'est un rapport très compliqué de... qu'est-ce qui est innovant dans un groupe et pourquoi un groupe, on considère qu'il est nouveau? Est-ce que c'est un son, un groove, un timbre? Enfin, je veux dire, c'est tellement... moi, je suis déterministe, mais il y a tellement de paramètres qui déterminent le fait qu'on considère que quelque chose est nouveau que c'est infini, quoi. Mais oui, bah faire quelque chose de nouveau, oui. Oui, je crois que quand on est... Moi, en tout cas, en tant qu'artiste, j'ai vocation à faire des choses qui n'existent pas. Parce que celles qui existent déjà, il y a des gens qui les font mieux que moi et j'ai envie de les écouter, pas de les faire.
Ébullition.
Les musiques traditionnelles en mouvement.
Une série coordonnée par Elina Descher et Xavier Le Boursicot et réalisée par Elina Descher pour la Ferrarock. Entretien mené par Sarah Péo pour Bob FM et Henri Landré pour Jet FM. Recherche musicale par Sarah Péo. Habillage par Quentin Lejat et Louise Chevalier pour Canal B. Montage par Raphaël Terribilet pour Radio Méga.
À l'origine de ce podcast, un livre. La création dans les musiques traditionnelles en France, l'écho d'un monde musical en effervescence. Coordonné par la FAMDT, le CPMDT et le Nouveau Pavillon, et publié aux éditions Mélanie Sétain.
C'était l'émission Nuages d'Élèves sur Jet FM, consacrée au podcast Ébullition, proposé par la fédération La Ferrarock, dont Jet fait partie, en écho à la publication par la FAMDT, le CPMD et le Nouveau Pavillon, aux éditions Mélanie Sétain, de ce très beau et gros livre baptisé « La création dans les musiques traditionnelles en France, l'écho d'un monde musical en effervescence ». Et c'est cet écho donc qui est relayé par La Voix des Ondes sur ces quelques podcasts complémentaires. Terminé pour cette émission Nuages d'Élèves qui revient la semaine prochaine aux alentours de 18h.